que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Elles sont nombreuses, ces femmes congolaises, qui ne prennent pas souvent des initiatives pour créer des organisations communautaires de développement ou lancer des activités génératrices de revenus. En milieu urbain, certaines sont parfois tentées de se lancer dans les petites et moyennes entreprises, mais n'osent pas, disons, faire le premier pas, ou celles qui ont des idées sont butées à de nombreuses difficultés, elles peuvent pas avancer et créer leur propre entreprise, si on peut le dire ainsi, laisse souvent la place aux hommes. Alors pourquoi et comment aujourd'hui on peut arriver à susciter cet esprit d'entrepreneuriat chez la femme congolaise? Madame Brigitte Kanika Saouda est experte en développement. Encore une fois, bonjour.
Bonjour Jody.
Alors nous parlons aujourd'hui de l'entrepreneuriat féminin. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par entrepreneuriat?
Voilà, merci pour la question. Entrepreneuriat veut dire tout simplement l'action de créer des richesses ou des emplois. C'est ça ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, c'est-à-dire changer ses idées en richesses. C'est ça ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneur, c'est une personne qui s'engage dans un effort visant à transformer ses idées en innovation, ses idées et innovations en biens économiques. Donc c'est ça ce qu'on peut dire un entrepreneur ou un entrepreneur, c'est lui qui fait l'entrepreneuriat. Donc c'est quelqu'un qui est capable de changer ses idées en richesse, en biens économiques.
Alors qu'est-ce qui aujourd'hui on parle de l'entrepreneuriat chez le féminin? Quel l'entrepreneuriat féminin? Quel état des lieux vous pouvez faire par exemple de l'entrepreneuriat, des initiatives prises par les femmes, d'échanger les idées en richesse?
Ben d'abord, avant que nous ne puissions aborder le vif du sujet, hein, ce que j'aimerais d'abord dire, qu'il y a trois différents types d'entrepreneuriat. Il y a d'abord les entrepreneurs sociaux. Ce sont tous ceux-là qui sont motivés par le désir d'aider les autres, d'améliorer et de transformer la société en leur apportant des formations, des informations et tout ça. Ça, ce sont les entrepreneurs sociaux. Donc, c'est déjà un type d'entrepreneuriat. Parce que les gens pensent souvent que quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est seulement par rapport au commerce. Donc, il fallait que qu'on puisse apesantir sur ces points-là. Il y a aussi ce qu'on appelle les entrepreneurs céréales. Ce sont ceux-là qui en permanence ont des idées nouvelles et créent des nouvelles entreprises. Donc il y a une catégorie de personnes qui ont toujours des idées innovatrices et qui sont là pour créer de nouvelles idées. À chaque fois, ils créent des idées et les gens suivent, eux ils font autre chose. Et ça aussi c'est une sorte d'entrepreneuriat. Ce sont ceux-là qu'on appelle les entrepreneurs céréales.
Céréales.
Donc
c'est
ça,
comme
s'écrit,
on parle.
Non, ça s'écrit S et accent aigu, R-I-A-L.
D'accord, entrepreneuriat céréal.
Oui, il y a ce qu'on appelle le lifestyle entrepreneur. Celle-là, il place d'abord la passion avant le profit. Donc, quand il travaille lors d'un lancement d'une entreprise, il travaille d'abord pour la passion. Il crée de l'emploi, non pas d'abord pour eux, non pas d'abord pour générer de profit, mais ils le créent parce que c'est une passion qui les amène à faire quelque chose qui soit à mesure de rendre ses voies. Ce sont ceux-là qu'on appelle des lifestyle entrepreneurs. Donc, ça, ce sont
les trois types,
d'entrepreneuriat.
D'accord. Et aujourd'hui, si on fait un état des lieux de l'entrepreneuriat dans notre pays, est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui entreprennent?
Malheureusement, je crois qu'il y a un document qui a été produit en 2005 par le ministère du Plan. Quand on a fait les statistiques, on a trouvé qu'il y avait 2 millions des entreprises féminines, mais tous étaient dans le formel. Toutes les entreprises étaient dans le formel, ce qui fait que ça n'avait pas vraiment beaucoup d'impact, étant donné que toutes ces entreprises-là de femmes travaillaient dans la majorité dans le formel.
2 millions,
je crois que c'était les statistiques de 2005, si j'ai... Non, 2005-2007, si j'ai bonne mémoire.
Okay.
C'est alors que le ministre Olivier Kamitatu était encore ministre du Plan. C'est lui qui avait... qui avait donné cette information lors d'une de ses interventions.
Et 2 donc, millions d'entreprises créées par des femmes,
créées
mais
par les
qui
femmes,
sont dans
mais
les
qui sont
secteurs
dans
informels.
Qui sont dans l'informel et qui n'émergent pas, qui n'évoluent pas, parce que fonctionnent dans l'informel. Et donc, si nous pouvons faire l'état des lieux aujourd'hui, je ne suis pas très très sûre qu'il y ait des améliorations.
Oui.
Étant donné que la majorité des femmes évoluent toujours dans l'informel. Et pourquoi elle évolue dans l'informel, c'est tout simplement parce qu'elle évite de se lancer dans le formel avec tout ce qu'elle considère comme tracasserie, c'est-à-dire tout le papier qu'on leur demande, tout ce qu'il y a comme taxe. Et pourtant, nous savons tous que la femme n'a pas beaucoup de moyens. Et donc, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat sont ceux-là qui... La majorité, n'ont pas assez de moyens pour créer des entreprises formelles. Donc, elles évoluent beaucoup plus dans le formel, quand bien même que nous le savons tous que 70% des foyers sont tenus par les femmes, mais malheureusement, la majorité évolue dans l'informel.
Oui. Donc, c'est là à cause des tracasseries.
Oui, dans un premier temps.
Dans un premier temps.
Elles ont peur.
Elles ont peur
de rentrer dans les formels par peur de tout ce qu'il y a comme taxes multiples, tout le papier qu'il faut faire et tout ça, qu'elles considèrent beaucoup plus comme tracasserie. Et donc, elle a peur aussi de faire le papier parce qu'il lui faut une certaine expertise qui lui demande d'avoir sa comptabilité à jour et tout ça. Et ça fait que la femme n'ose pas aller de l'avant et créer des entreprises formelles.
Et quels sont les autres obstacles à l'entrepreneuriat féminin?
Les autres obstacles par rapport à la formation de la femme. La femme n'ayant pas toujours une très grande formation par rapport à l'homme, la plupart des fois, elle n'aime pas se lancer dans l'activité économique formelle parce que elle est limitée par cette formation qui manque. Et l'autre obstacle aussi, c'est par rapport à l'accès aux ressources financières. Comme vous le savez, il est rare, il est vraiment rare dans les pays qui fonctionnent bien qu'on lance une activité commerciale ou une entreprise avec ses propres moyens. C'est toujours de crédit. Or, la femme n'a pas souvent accès au crédit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de microfinance. De microfinance qui sont juste des petits montants de rien du tout qui ne peuvent pas permettre à ce que la femme puisse accéder à beaucoup plus de moyens pour se lancer dans le formel. Ça aussi, c'est parmi les autres.
Il y a l'accès limité au crédit.
Aux ressources financières en général. Aux ressources financières en général. Oui. Ça peut être des crédits, ça peut être aussi des dons. Ça peut être aussi des appuis du gouvernement. Ce qui est faisable aussi. Et puis, il y a aussi le problème de loi. Donc, il y a certaines mesures qui ont été prises par le gouvernement sur l'entrepreneuriat féminin. Mais malheureusement, toutes ces mesures-là sont restées des documents. Ils ne sont pas encore traduits sous forme traduits en pratique, en fait. Traduit en acte.
Oui. Mais il me semble que depuis quelques temps, le gouvernement a facilité la procédure de création d'une entreprise. En 3 jours, Madame Brigitte, vous pouvez créer.
Non, 3 jours. 3 jours, oui. 3 jours, ça, c'est ce qu'on dit, mais je ne suis pas vraiment très sûre que sur le plan pratique, ça s'est fait en 3 jours. Et quand bien même ça s'est fait en 3 jours, mais en amont, il y a tous les documents qu'il faudra réunir. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en amont. Cette création-là en 3 jours, c'est si vous remplissez toutes les exigences, alors vous pouvez aller vers le gouvernement et dans 3 jours vous avez votre autorisation. Mais en amont, il y a beaucoup de choses qu'il faut remplir et la femme n'est pas toujours prête, elle n'a pas toujours toutes les facilités pour accéder à cela et ça aussi ce sont des facteurs limitants.
Voilà, à part ça, il y a d'autres facteurs.
Je crois que ce que je venais de citer, ce sont les facteurs majeurs.
Voilà, les facteurs majeurs. On parle des tracasseries. La femme a peur à cause des tracasseries, les taxes qu'il faut payer, les papiers, les formalités. Il y a aussi un problème de la formation. Vous avez parlé de l'accès limité aux ressources financières. Aujourd'hui, on doit susciter l'entrepreneuriat féminin, on doit encourager les femmes à créer les entreprises, des petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les préalables, disons, pour les aider à créer des entreprises?
Le préalable, d'abord, c'est que la femme, elle doit avoir la passion de la création. C'est qu'on n'a pas souvent. C'est-à-dire quoi? Il y a plusieurs qualités pour qu'on soit appelé entrepreneur. Et parmi les qualités, je vais en citer quelques-unes, il y a d'abord la passion. Quand on parle de la passion, cela veut dire qu'il faut aimer. Il faut aimer ce qu'on veut entreprendre. il faut y aller avec son cœur.
C'est-à-dire, il semble que nos mamans d'ailleurs sont déjà passionnées. Il semble que la femme congolaise aujourd'hui, c'est elle qui tienne les ménages, c'est elle qui organise les choses.
Oui,
c'est déjà une forme d'entrepreneuriat, si on peut dire.
Non. Si nous allons dans la définition. Dans la définition de l'entrepreneuriat. Oui. Tenir son ménage, c'est pas de l'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est une activité comme une, toute une autre.
Hein.
Mais
nous avons dit
dans la définition que l'entrepreneuriat, c'est l'action de créer des richesses ou de l'emploi.
Mmh.
OK?
Oui.
Donc, quand nous parlons entrepreneuriat, nous devons d'abord avoir ça dans la tête. Le fait d'être une femme ménagère, ce n'est pas de créer de l'emploi. Ce n'est pas de créer des richesses.
Non, les tenir le ménage dans le sens que le mari ne travaille plus et c'est la femme qui s'occupe, par exemple, elle fait un petit commerce.
Oui,
c'est déjà une activité.
C'est une activité qui est dans l'informel, mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat. Nous voulons encourager les femmes d'entrer dans le formel. C'est ça l'objectif.
D'accord.
Nous voulons l'encourager d'aller dans le formel.
Mm-hmm.
Nous parlons. C'est vrai que. Dans notre pays, quand on parle de l'entrepreneuriat, souvent on voit la maman qui vend le pain, l'entrepreneuriat féminin, hein, si nous pouvons parler.
On voit souvent les petites activités génératrices de revenus. Oui.
Ce n'est pas de l'entrepreneuriat. On dit c'est créer de l'emploi. Créer de l'emploi, non seulement pour soi, mais pour les autres aussi.
Commence toujours petit, non? Et puis on évolue.
Oui, on commence toujours petit. Mais la question que moi j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les hommes aussi font des petits les entrepreneuriats tels qu'on le pense pour les femmes. C'est pas toujours évident. Pour les hommes, quand on parle d'un entrepreneur, on voit toujours des grandes entreprises, des grandes choses. Mais pourquoi pour la femme, on doit toujours la réduire à ne penser qu'au petit commerce, à faire le pain, le petit commerce où il faut accéder à des petits fonds de $50, de $100. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Je me dis qu'il faut qu'on arrive à transcender cela. Mmh. Il faut qu'on dépasse ces niveaux. Si aujourd'hui, on veut parler vraiment de l'entrepreneuriat féminin, si nous voulons aider les femmes à aller de l'avant, il faut qu'on arrive à quitter ces niveaux-là. Il y a 20 ans qu'on était en train de parler de l'entrepreneuriat dans ce sens-là, avec les technologies
appropriées.
Mais
même les hommes aujourd'hui qui ont des grandes entreprises, ils ont commencé petit et ça a évolué au fil des
Mais justement, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que nous devons
faire. Il y a des femmes aussi qui ont commencé petit et aujourd'hui, elles ont des grandes entreprises.
Mais elles sont au nombre de combien comparativement aux hommes? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler qu'il faut encourager les femmes à aller de l'avant, à quitter ces niveaux-là où, quand on parle de l'entrepreneuriat de la femme, on voit seulement
les
la clé à $100, le pain, elle vend le charbon de bois, on lui donne un petit sac de maïs, et puis on va parler de l'entrepreneuriat.
Non,
il faut
ça.
Qu'on quitte maintenant ces niveaux-là.
D'accord.
Quand on parle de l'entrepreneuriat, il faut qu'on parle vraiment de la création de richesses dont la femme aussi est capable. La femme, elle est capable aussi de créer des richesses, comme les hommes le font.
Bien.
Et d'accéder aussi, et de permettre aussi qu'elle accède à des moyens plus consistants.
D'accord. Je reviens à vous dans quelques instants, Madame Brigitte. Il est temps d'accueillir Esther Oubedi depuis Yarou et Georges de Manono.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Comment susciter l'entrepreneuriat féminin? Esther Oubedi, vous êtes à Arou. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à tous.
On vous écoute, Esther.
Merci pour les sujets. À mon avis, la promotion de l'entrepreneuriat féminin en RDC est une problématique qui devrait s'intégrer dans la politique du pays, à la du sommet à la base. Quand on dit promotion, c'est quoi? Je pense que c'est simplement réunir toutes les conditions, alléger, faciliter les conditions d'accomplissement d'une tâche quelconque. Concrètement, sur des respects, si c'est pas, que ce soit en ville comme au village. Qu'est-ce qui est fait pour faciliter les conditions d'entrepreneuriat de la femme? Tout ce qui est, même les structures locales où les femmes se dirigent pour avoir des crédits, juste pour démarrer leurs affaires, il y a déjà un blocage. Je dis, imaginez, par exemple, ici à Haro, il y a des structures que je connais qui peuvent recevoir des crédits, mais il n'y a pas de conditions. Par exemple, pour être membre, il faut adhérer avec 10 dollars, il faut commencer d'abord à déposer l'argent dans cette structure-là. On entend des fois, c'est après, on pourra vous déployer les crédits. Mais je dis, cette femme-là n'a rien au départ. Mmh. Elle veut juste demander l'argent pour démarrer, mais vous-même, vous lui demandez l'argent pour vous alimenter d'abord. Ne voyez-vous pas qu'il s'agit là d'une barrière déjà? À part ça, il y a une autre technique que je connais aussi. Pour avoir un crédit, il faut que vous soyez au moins en 4 ou 5 femmes. Mais la décision que la femme prend pour son entrepreneuriat, c'est personnel. Quand vous lui demandez déjà, il faut aller chercher 4 à 5 autres femmes pour que vous puissiez ne pas adhérer à notre société. C'est aussi encore une autre barrière. Alors, toutes ces conditions-là sont pareilles pour les structures de crédit, que ce soit au niveau local comme national. Alors, c'est les questions que je vais poser à madame. Comment simplifier, alléger, ne pas réunir toutes ces conditions? Et quelles sont barrières pour cette femme-là qui veut évoluer avec son entrepreneuriat, que ce soit au niveau local et national? Comment faire vraiment pour alléger la taille?
D'accord.
Au niveau national même. Quelle politique on a sur ce niveau-là?
Merci Esther, depuis Yarou. Georges, vous êtes à Manono, au Katanga. Bonjour.
Bonjour monsieur, je dis Daniel Kassama, bonjour aussi à madame Bricky.
Merci.
Alors j'avais deux préoccupations à demander à notre invité, mais j'ai constaté que tout est dit là, elle a déjà répondu à l'une de mes préoccupations. Alors je prends la première, la préoccupation que je suis resté avec. Donc est-ce que monsieur ou madame Brigitte, la coutume n'est pas un frein pour l'entrepreneuriat féminin? Je prends par exemple ici chez nous, il y a encore des papas là qui ont l'habitude de ne pas peut-être autoriser la femme de faire de trafiquer ou d'entrer dans des associations. Les papas là refusent que leur femme entre dans des associations par crainte que cela les rend, au moins le ramène à faire la prostitution ou ça les ramène à être avoir la tétitesse. Alors, ma question est de savoir, est-ce que c'est là, comment il faut faire pour combattre cette idée-là qu'ont toujours eu certains parents? Merci beaucoup, monsieur Joly.
Bien, merci, Georges. Madame Brigitte.
Oui, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié la question de madame Esther. Hein. Ce n'est même pas vraiment une question, mais sa contribution.
C'est ça.
Elle a donné pratiquement son expérience là où elle vit. Et je crois qu'elle a complètement raison, parce que il y a plusieurs conditions et obstacles qui font
pour
que...
Pour avoir accès au crédit.
Oui, pour avoir accès au crédit. Est-ce qu'elle a dit à quelqu'un qui n'a rien, vous demandez pour adhérer, d'abord il faut acheter la carte de membre, il faut payer 6 dollars de ici, il faut commencer par épargner avant d'accéder au crédit. Je crois que ce sont des conditions aussi limitantes. Et il y a une proposition qu'elle a faite pour dire qu'il faut que le politique du gouvernement puisse appuyer. Je pense que c'est ça même le débat. C'est ça même la mission du gouvernement. Il y a le programme national pour la promotion de la femme congolaise qui a été actualisé pour 2005-2015 et qui s'articulait autour de 12 programmes. Et parmi les programmes, il y avait l'accès de la femme aux ressources financières. Et ça a été formulé sous forme des objectifs pour ces programmes-là. Et dans ce document, il est dit que 61% des femmes vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc, ces programmes voudraient réduire cette tendance est amenée au moins à la moitié, à la moitié ces pourcentages de femmes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mais la question, et il était aussi question dans ces programmes du gouvernement de faciliter l'accès au crédit. Mais aujourd'hui, M. Jody, je vais vous poser la question, si nous allons par exemple au FPI, qui est le fonds de promotion industrielle.
Oui.
Quel pourcentage de femmes qui ont accès au crédit? Je crois qu'on ne trouvera même pas 5%. Une fois, j'avais vu un document qu'on avait publié, où on était en train de parler des insolvables. J'ai essayé de regarder du début à la fin, il y avait le nom d'aucune femme.
Il n'y avait que les hommes qui sont...
Il n'y avait que les hommes.
Insolvables.
Donc, j'ai essayé d'extrapoler pour oui. dire, il s'est pourri qu'il n'y a même pas de femmes qui accèdent à ces crédits-là. Parce que les conditions aussi ne permettent pas. Et pourtant, c'est un fonds qui devait être aussi mis à la porte de femmes. Et on devait, et les politiques du gouvernement devaient encourager les femmes à accéder à ces fonds-là. Mmh. Parce que ces fonds-là étaient mis en place pour se faire.
Et donc il n'y a pas assez madame, de femmes qui...
Non. Et si vous allez aussi dans les banques...
Qui sont servies là-bas.
Non, si vous allez aussi dans les banques, vous allez faire le même constat. Allez dans les banques, vous allez constater que les banques font beaucoup plus confiance aux hommes qu'aux femmes. Et si les femmes accèdent aux crédits dans des banques, ce sont des crédits minimes, comme j'étais en train de dire. C'est plus les structures de microfinance où vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là. Mais par rapport aux grandes banques, les femmes ne sont pas nombreuses. Celles qui sont là, ce sont juste... Ça ne peut même pas faire 5% de femmes.
Peut-être que ces banques donnent des crédits seulement aux femmes qui ont déjà fait leurs preuves,
voilà, qui ont des entreprises bien assises. Voilà, qui ont déjà des grandes entreprises et déjà assises. Mais pour les femmes qui veulent commencer une activité, une banque ne peut jamais lui faire confiance. Ne peut jamais lui donner de l'argent parce que les banques, ce ne sont pas des philanthropes. Hein. Donc, elle donne de crédit pour les gens qui savent qu'ils sont solvables. Et ça aussi, c'est une question limitante pour la femme. Et donc, je crois, par rapport à la question d'Esther, il est temps que le gouvernement puisse mettre des mécanismes qui pourront aider à ce que les femmes accèdent à beaucoup plus de ressources financières. Et par rapport à la question de M. Georges, qui a parlé de coutume.
De la coutume, est-ce qu'elle n'est pas un frein à l'entrepreneuriat féminin?
Je crois que c'est un grand frein. C'est vraiment un grand frein à l'entrepreneuriat féminin parce que il y a de ces hommes-là qui, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 21e siècle, continuent à croire que si la femme a beaucoup de moyens, si la femme accède aux moyens financiers, elle devient têtue, elle n'est plus respectable, elle n'est plus respectueuse. Elle n'est plus respectueuse.
Et elle n'est plus soumise.
Son mari. Et elle n'est plus respectable.
Oui.
Ça aussi, c'est un élément. Elle n'est plus respectable parce qu'elle va côtoyer les hommes et tout ça. Et puis, on pense que dès qu'on côtoie les hommes...
Elle devient infidèle.
Elle devient infidèle. Il y a déjà un danger pour son mariage. Donc, il y a tous ces préjugés-là qui sont aussi un frein pour l'entrepreneuriat.
Voilà. Gérard nous appelle de Bounia. Bonjour, Gérard.
Bonjour, c'est Marie
qui est
entre les
poupées,
je ne sais pas si ça vient.
Non, ça va, on vous écoute très bien. Peut-être qu'il y a, il y a le vent.
Je voulais dire, la majorité des cas,
non.
Tous les cas.
Gérard, on vous entend pas très très bien. Bon, écoutez, on va essayer de nous rappeler un peu plus tard ou changer de téléphone parce que là on vous entend pas très bien. Nous avons Ignace Ndala de Kolwezi. Bonjour Ignace.
Bonjour, je dis bonjour notre invitée madame Kanka. Alors je veux simplement dire que le problème de l'entrepreneuriat me préoccupe beaucoup. Hein. Ça me fait mal de voir beaucoup de femmes tout autour, moi je suis à Kolwezi, les femmes qui ne font pratiquement rien. Je me dis, dès qu'on réfléchisse avec madame, est-ce pas un problème de communication et d'information, hein? Je pense déjà, si on peut, à la base, créer ce que moi j'appelle des cellules de base pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin, comme ça, on sensibilise d'abord, parce qu'il y a insuffisance d'information. Tantôt, les femmes vont à la banque prendre de l'argent par imitation pour faire de petits commerces de routine. Moi, je pense qu'il est très nécessaire qu'on sensibilise davantage la population, et c'est ici le cas de demander à madame si elle peut nous faciliter pour qu'on puisse la relayer dans cette démarche, pour qu'on puisse sensibiliser vraiment les femmes dans ce contexte-là. C'est beaucoup plus ma préoccupation, insuffisance d'information pour se lancer dans l'entrepreneuriat féminin.
Merci Ignace. On va accueillir Gérard de Bounia. Bonjour Gérard.
Ok, bonjour, je vous dis pas, ça va bien, mais...
Voilà, nous, on vous écoute plus ou moins bien. Allez-y rapidement avec la question.
Ok, le problème que nous rencontrons chez nous, souvent, il y a deux grands problèmes. Le premier, c'est que les ONG ne sont pas dans notre portrait. À Bounia, nous sommes presque à la distance de 60 km de Bounia. Alors, les ONG, là, sont concentrées seulement à la ville, pas dans des villages. Et puis le deuxième problème, ce sont les problèmes de taxes qui sont épais nombreux par rapport aux travaux que les petites entreprises, que les femmes ou les hommes veulent exercer. Alors, je ne sais pas comment on peut remédier à tous ces problèmes.
Voilà, vous êtes à Bounia et non à Bounia, c'est ça?
Non, c'est Bounia, B-U-N-I-A. Alors, le problème, c'est que nous sommes dans le village. Bounia, c'est notre ville, c'est à la plus proche.
D'accord.
À 4 km de chez nous.
Oui. Voilà, merci Gérard, j'ai compris la oui. question.
Je ne suis que dans la ville, merci beaucoup et bonne continuité.
Bien, Justin Calabia, oui. vous êtes aussi à Bounia, bonjour.
Bonjour monsieur, je dis Daniel Kachamay, bonjour à notre invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute Justin.
J'aimerais d'abord savoir, je n'ai pas compris le terme du jour.
Vous n'avez pas compris les thèmes du jour. Nous parlons aujourd'hui de l'entrepreneuriat féminin, comment susciter l'entrepreneuriat féminin. Alors, comme vous n'avez pas compris, donc vous n'avez pas aussi de questions, peut-être que vous allez suivre, après vous aurez le temps de poser de questions. Merci. Madame Brigitte, vous avez la parole.
J'aimerais d'abord commencer par la question de Monsieur Gérard. Quand il dit qu'il n'y a pas des ONG dans son milieu parce qu'ils sont dans le village et les ONG ne sont qu'au niveau de Bounia, en fait dans les grandes villes. Hein. Et puis sa deuxième préoccupation, c'est par rapport aux taxes qui sont trop nombreuses. Je crois que nous avons évoqué les problèmes des taxes, ce qui est un frein par rapport à l'entrepreneuriat féminin parce que la femme s'est dit elle n'a pas le moyen de payer tout ce qu'elle doit payer, surtout que son point de départ, donc l'argent avec lequel il commence, son fonds de démarrage n'est pas toujours aussi consistant. Et si elle doit se mettre à payer telle taxe, tel document, c'est aussi un frein qui fait que la femme n'arrive pas à s'engager pour aller vers le formel. Ça, nous l'avons dit, et je crois que la balle est dans le camp du gouvernement. Si on veut vraiment amener...
Et comme Gérard parle des ONG, les ONG peuvent aussi aider les femmes à commencer à entreprendre, à les former,
oui,
par exemple.
Oui, les ONG peuvent aider, absolument. Les oui. ONG peuvent aider, mais moi, j'ai toujours dit que les ONG, c'est une troisième main. Une troisième main, c'est-à-dire un être humain n'a que deux mains. Mmh. Et donc, la troisième main, c'est une aide. Et donc, les ONG viennent en appui au gouvernement. Mais ce rôle, c'est parmi le rôle régalien du gouvernement. Donc, c'est d'abord au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser l'entrepreneuriat féminin. Et s'il y a des ONG, comme il venait de le dire, que dans son milieu, il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons tout un ministère. Nous avons le ministère du genre qui s'occupe des problèmes de femmes. Nous avons le ministère de l'économie. Nous avons le ministère de petites et moyennes entreprises, je crois que ça existe, où il y a un ministère quand même qui est en charge des petites et moyennes entreprises. Et je crois que tout ce ministère-là devrait conjuguer leurs efforts pour aider l'entrepreneuriat de la femme. Il n'y a pas que les ONG. Les ONG travaillent avec des moyens limités. Les ONG travaillent avec 90% de moyens qui viennent de l'extérieur. Mmh. Et les moyens qui viennent de l'extérieur ont des objectifs bien précis. Et je me dis que c'est dans le rôle du gouvernement d'aider à ce qu'il y ait cette émergence-là de l'entreprise. Parce que cela a été coulé dans les DCRP, que ce soit DCRP de première et de deuxième génération. Mmh. On a parlé de l'entrepreneuriat de femmes. On a parlé qu'on devait favoriser cela. Qu'on devait
surtout
faire
par l'accès au crédit. Donc, je crois que c'est l'élément important
aux ressources financières.
Oui.
C'est un élément important. Et moi, je pense, depuis qu'on a créé, on a fait les DCRP 1, on est passé au DCRP 2. Si nous devons faire l'évaluation sur ces points précis de l'entrepreneuriat féminin, qu'est-ce qu'on a fait?
Mais avant d'arriver aux ressources financières, il y a d'abord l'idée. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont des idées, elles sont arrivées à mettre en place des projets clairs
et c'est là
très
où,
bien.
Et c'est là où peut-être que nous allons arriver
projet d'entreprise, le business plan, tout ça.
Oui, c'est là où nous arriverons peut-être à la question de M. Ignace, mm-hmm. qui vient de dire qu'il y a un problème sérieux, le problème des communications. Et j'avais dit lors de l'introduction qu'il y a un problème de communication et d'instruction aussi de la femme. Mm-hmm. Les femmes qui ont la facilité d'information, c'est plus les femmes qui sont instruites. Or, nous savons que dans le milieu le plus reculé, c'est un peu difficile de trouver la majorité de femmes qui soient instruites. Mmh. Et donc, il y a ces problèmes-là de communication. Et là, je me retourne encore vers le ministère du genre pour dire que à un certain moment, j'avais cru comprendre qu'on avait commencé à mettre en place des maisons de femmes. je crois bien.
Oui, maison de,
maison
femme,
de
oui,
la femme.
Oui, bien sûr, maison de la femme. Femme. Oui.
Et ces maisons-là avaient pour objectif de regrouper les femmes, de discuter sur leurs problèmes, de chercher ensemble, de réfléchir et chercher ensemble des pistes et des solutions. Et moi, je me dis que si on devait continuer avec ces maisons, c'était vraiment une idée que moi, j'avais beaucoup encouragée. J'avais beaucoup parce que dans d'autres pays, tels que le Sénégal, tels que le Mali, c'est quelque chose qui a fait vraiment... son œuvre par rapport aux femmes dont on n'avait pas besoin d'être seulement instruite pour accéder aux informations, mais c'est un milieu où les femmes pouvaient
se retrouver, il y avait de formation, on leur donnait des informations
et des formations aussi, voilà. Et ça les permettait à émerger, parce qu'on ne doit pas attendre seulement qu'on suive les informations à la télé, encore que même ici à Kinshasa, il y a des milieux où il n'y a pas d'électricité. Et donc, il y a difficulté que la femme accède à l'information. Mmh. Mais s'il y a des maisons comme ça qu'on pouvait mettre dans des communes, dans les structures rurales et tout ça, ça pouvait être un moyen qui pouvait permettre à ce qu'il y ait communication, à ce que la femme comprenne. Parce qu'il y en a qui ont des idées, mais qui ne savent pas aller de l'avant. Et c'est parmi les qualités, ce que je voulais dire, quand on a commencé avec les qualités.
Vous avez parlé de la passion.
J'avais parlé d'abord, première qualité, c'était la passion.
D'accord.
Deuxième qualité, c'est capacité relationnelle. Ce que cette femme qui veut être entrepreneur, elle doit avoir cette capacité-là de relation. C'est créer des relations, être avec les autres, comprendre ce que les autres font. Et puiser le point positif de ce que les autres ont entrepris et qui ont réussi.
D'accord. Un instant, Madame Brigitte, on va accueillir Roger qui nous appelle des Fungurume dans la province du Katanga. Roger, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, l'invité de l'émission.
Bonjour.
On vous écoute, Roger.
C'est pour vous venez de m'appeler. C'est M. Ivo Kalangwa qui vous appelle en partie des Fungurume. Je voudrais poser la question à Madame. L'invité du jour, pour promouvoir les partenariats féminins, ici chez nous à Fungurume, mais d'une façon particulière, et en général à l'RDC. D'une façon remarquable, nos femmes actuelles, c'est-à-dire localement où nous vivons, nous trouvons qu'elles sont très capables de tout faire, mais le niveau d'instruction, peut-être ne pourra pas leur permettre d'accéder à faire ça. N'y a-t-il pas moyen? L'invité du jour, avec le concours des différentes ONG, d'abord d'instruire les mamans qui se donnent du jour au jour à chercher les moyens comment vivre dans leur foyer, mais qui ne connaissent peut-être rien dans le calcul et même où aller faire leurs affaires, peut-être pour accéder facilement à ce partenariat féminin.
À l'entrepreneuriat féminin. Merci, Roger. Madame Brigitte.
Oui, je pense que M. Roger, il a tout à fait raison, mais moi, je ne parlerai pas plutôt de l'instruction, mais je parlerai plutôt de l'accès à l'information. Dans mon expérience, on a trouvé des femmes qui n'avaient pas une certaine instruction, mais qui ont fait de grandes choses et qui sont devenues des grandes entrepreneurs. Et donc, moi, je me dis que le gros du problème, c'est plutôt l'accès à l'information. Comment est-ce que ces femmes pourront accéder à l'information et se dire que je peux me lancer et prendre le risque? Et le risque là, dont je viens de parler, c'est parmi les qualités. La prise de risque, c'est parmi les qualités, je crois, troisième ou quatrième qualité.
On était à la capacité relationnelle, deuxième
capacité
qualité.
Capacité relationnelle et troisième, c'est prise de risque. Donc, il faut que la femme arrive à se lancer et prendre des risques. Comme vous le savez, commencer une nouvelle activité, c'est toujours de risque. Un monde inconnu, c'est toujours prendre le
risque. Qui ne risque rien à rien.
Donc, la femme, elle doit avoir cette capacité-là de prendre des risques. Et pour qu'elle arrive à prendre les risques, elle doit être informée. Elle doit savoir... Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où je reviens encore au niveau du gouvernement et aussi de toutes les ONG qui accompagnent ces femmes, qui accompagnent le gouvernement dans sa mission et qui aident les femmes à prendre conscience qu'il y a un problème réel qui se pose. Parce qu'aujourd'hui, vous allez le remarquer, je dis, la femme ne veut plus rester à la maison à ne rien faire. Toutes les femmes voudraient entreprendre.
D'ailleurs, actuellement, il y a beaucoup de femmes qui vont en Asie, qui vont en Chine, qui vont, qui font des voyages régulièrement pour aller acheter des vêtements et autres. Et comment est-ce qu'on peut pas organiser ces circuits-là, les regrouper et former des grandes entreprises?
C'est ce qui manque dans le pays. Je crois que le gouvernement devait saisir cela. Je suis en train de voir, il y a une campagne qui est en train d'être lancée, consommons local. Mmh. Mais pour consommer local, il y a aussi des exigences. Il y a des exigences par rapport à la qualité. Il y a des exigences par rapport à l'accès au marché. Il y a des exigences par rapport à l'accès aux produits manufacturés. Et je pense que c'est parmi... Le gouvernement devait saisir cette occasion-là pour former toutes ces femmes-là. Au lieu d'aller toujours en Asie pour acheter des pièces, des tissus, des wax, pourquoi ne pas leur donner de moyens d'ouvrir les capacités d'ouvrir des usines ici sur place? Nous avons du coton. Nous avons
de l'expertise.
Nous avons des produits. Pourquoi ne pas les amener à se mettre toutes ensemble, à créer une grande usine de production de wax ici sur place et à devenir une grande entreprise de femmes composée par les femmes? Dans d'autres pays, ça s'est fait. Quand vous allez dans le pays de l'Afrique de l'Ouest, ils sont déjà arrivés à ce niveau-là. Et je crois que cette promotion-là devait arriver à là.
On va terminer avec Madame Charlotte. Elle nous appelle de Kinshasa. Madame, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute. Hein.
Oui, je voulais appeler Madame Brigitte en disant que l'État doit jouer son rôle. L'État doit encadrer toutes ces femmes, ces hommes qui se lancent dans l'informel. Dans d'autres pays, c'est tous ces gens-là qui sont la base de l'économie du pays et qui font des rentrées substantielles dans l'économie du pays. Prenons par exemple le Sénégal. L'État les organise en filières. Voilà. Filières dans tel domaine, filières dans tel domaine. Et puis, ils ont des formations. Ils ont même, on appelle même des experts pour les former. Et ils ont même des subsides de l'État. Dans d'autres pays aussi, donc, il y a même des sociétés, des grandes sociétés qui encadrent ceux qui sont dans les formels, mais qui sont dans la même filière. Et les choses avancent. Parce que quand on les abandonne à eux-mêmes, c'est l'État aussi qui paye. Ça ne sert à rien de stresser les grandes sociétés à payer l'impôt, à payer le statut, alors qu'il y a moyen aussi de récupérer ne fût-ce qu'un petit rien pour renforcer l'économie du pays. C'est ce que je voulais dire. Mais ces gens-là, comme a dit Mme Brigitte, doivent être formés, doivent être encadrés, doivent être appuyés. Ils doivent être même répertoriés parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi.
Voilà.
Hein? Vous voyez, donc, il n'y a même pas de formation technique spécifique pour ces gens-là. Quand on fabrique, par exemple, la chikwang, est-ce qu'on essaie de voir la composition de ce qu'on met sur le marché? On ne sait pas. Même la population est exposée parce qu'il n'y a aucun service public qui analyse tout ce que les gens fabriquent dans les maisons, les jus qu'on vend, les yaourts qu'on vend, tout ça. Il n'y a personne qui vérifie ça. Alors, vous voyez qu'il y a encore un grand travail à faire. Et je crois que la première personne à être sensibilisée, c'est l'État congolais.
Bien. Merci, Madame Charlotte. Madame Brigitte.
En tout cas, je suis très, très contente de l'intervention de Madame Charlotte. Franchement, je crois qu'elle a touché le point essentiel.
Elle a donné l'exemple du Sénégal et vous avez parlé également du Sénégal où l'État organise les femmes infirmières.
Oui, c'est pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest, malheureusement. Au niveau de l'Afrique centrale, le Cameroun a commencé. Il y a certains pays qui ont commencé, mais ce n'est pas encore de façon poussée. Mais je crois qu'il est temps maintenant qu'on puisse organiser les gens en filière. Et c'est ça la grande, c'est ça le gros du problème qui manque. On ne sait pas comment mettre les gens en filière. Filière, c'est-à-dire quoi? Commencer de la production jusqu'au niveau de la consommation et on organise tous les gens qui se trouvent, par exemple, je prends l'exemple de wax. Parce que, comme vous avez dit, il y a beaucoup de mamans qui vont vers la Chine.
Qui vont
chercher des wax.
Des wax, oui.
Et pourtant, nous avons du coton ici. Pourquoi ne pas organiser les producteurs de coton? On organise, on crée des usines. Nous avons déjà une usine. Il y a du texte qui est là. Il y a Soteski et tout ça. Relancer ces usines-là. Il y a des producteurs. Il y a ceux qui transforment, c'est-à-dire les usines qui fabriquent le wax. Il y a les femmes qui vendent.
Ceux qui sont dans la distribution,
la grande distribution, la petite distribution, jusqu'au niveau des consommateurs. On organise toute la filière et en ce moment-là, l'État pourra rentrer dans ses droits. Parce que comme venait de dire Madame Charlotte, il y a beaucoup d'argent qui rentre dans l'informel. Et maintenant, ceux qui sont dans l'informel paye le pot. Parce qu'on surtaxe ceux qui sont dans les formels, parce que ce sont les seuls à pouvoir contribuer. Et ceux-là sont asphyxiés. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent et qui ferment. Et c'est pour cela que les femmes évitent de se lancer. Les femmes ont peur de se lancer. Mmh. Et pour chuter peut-être, comme on est...
À la fin de cet entretien, il vous reste quelques secondes. Oui.
Donc, parmi les qualités, oui. Il y a aussi le leadership. Mmh. Donc, les femmes qui doivent arriver à, non seulement à émerger, mais à faire émerger aussi les autres. Il y a l'organisation et la gestion du temps. Ce sont les éléments aussi importants qui font que les femmes ne sont pas toujours assez compétitives. Il y a aussi la compétitivité. Donc, il faut que les femmes puissent se dire, tout en étant femme, elle est capable aussi de se mettre dans le marché avec les hommes et compétir ensemble et que le meilleur gagne. Et dernier élément, c'est par rapport à la confiance en soi. La femme doit savoir qu'elle est elle a de potentialités du même niveau que au même niveau que l'homme et qu'elle est capable aussi de faire de grandes choses. Mais pour cela, il faut qu'elle soit appuyée par le gouvernement, qu'elle soit appuyée par les ONG qui appuient les gouvernements, parce que je ne cesserai jamais de le dire, c'est d'abord dans la mission du gouvernement.
Du gouvernement, pas la mission des ONG.
Non, pas la mission des ONG.
Merci madame Brigitte Kanika Saouda, je rappelle que vous êtes experte en développement. Merci et bonne journée.
Bonne journée à vous aussi.